Bonjour et bienvenue dans Point de rupture, notre émission consacrée aux bouleversements écologiques et à leur impact sur nos manières de penser le monde. Nous sommes en 2050. Paris est devenue une métropole sans pétrole. Les centres commerciaux sont devenus des serres de pépinières. On pratique l'étalement rural. La population a diminué de moitié. C'est le grand Paris après l'effondrement que décrit un livre que vous avez coécrit. Benoît Thévard, bonjour.
Bonjour.
Mais nous sommes en même temps en 2020. Et en 2020, 34 hectares de maraîchage, de friches, d'arbres, de zones humides sont occupés à Besançon et résistent à un projet d'écoquartier. Ce sont les jardins des Vettes, jardins que vous défendez, Claire Arnoux.
Bonjour.
Bonjour. Merci à tous les deux d'être venus à Mediapart pour cette discussion. Ensemble, nous allons esquisser les contours d'une agriculture urbaine, mais d'une agriculture urbaine nourricière, inclusive, solidaire, libre d'accès et en partie auto-organisée. Une agriculture urbaine pirate, pour citer les mots de la chercheuse Flaminia Padeu. Alors, pour commencer, rentrons directement dans le vif du sujet, c'est-à-dire les mains dans l'humus et dans les terres. Pourquoi remettre des terres nourricières dans les villes? Et c'est la question que je vais vous poser, Benoît Thévard. Donc vous êtes le co-auteur du Grand Paris après l'effondrement, donc avec deux autres contributeurs, contributrices, qui est un scénario qui imagine un devenir du Grand Paris en 2050. Et dans ce scénario, on peut dire, de décroissance radicale, les terres nourricières sont au cœur de la ville. Pourquoi ?
Alors, en effet, il est important de reposer le contexte de ce travail, hein, qui, bon, le titre dit bien aussi ce contexte avec la question de l'effondrement. Dans l'idée de ce travail, il s'agissait déjà de poser le constat du fait que la société telle qu'elle s'est organisée pendant le siècle passé aboutit à des formes urbaines, des métropoles, des mégapoles, qui ne seraient a priori pas durables, pas soutenables, pas résilientes. Et donc, l'hypothèse qui est posée est celle d'un effondrement en raison justement de la grande vulnérabilité des territoires. Il faut bien avoir à l'esprit que dans cet ouvrage que nous avons réalisé, cette hypothèse de l'effondrement est évidemment déterminante pour dire, eh bien, on n'est pas dans une continuité de ce qu'on vit aujourd'hui, mais on est bien dans une rupture dans laquelle on imagine à quoi ça pourrait ressembler.
Donc c'est un autre monde. C'est le territoire du Grand Paris. On est en 2050, on peut se dire, finalement, c'est dans 30 ans, c'est pas énorme. Mais c'est vraiment un tout autre monde.
C'est ça, c'est un tout autre monde. Alors, ça a un double objectif. Hein. Évidemment, ça a l'objectif de se projeter dans l'avenir et de se dire, bah, tiens, à quoi ça pourrait ressembler si tout s'est un peu cassé la figure et qu'on retrouve un état d'équilibre après cette rupture. Mais l'idée aussi, c'est d'essayer d'imaginer à quoi ça pourrait ressembler une Île-de-France résiliente, c'est-à-dire qui soit basée non plus sur la dépendance à une énergie extrêmement abondante, pas chère, fossile, polluante et tout ce qu'on connaît aujourd'hui du fonctionnement de la société, mais qui dépendent eh bien, de plutôt d'équilibre retrouvé entre l'humain et l'écosystème. Et donc c'est en ce sens-là où le dimensionnement à la fois des communautés et de leur niveau de consommation, etc., est évidemment essentiel. Et donc la manière dont s'organise le territoire pour subvenir à ses besoins alimentaires, en eau, en énergie, voilà, pour tous ces éléments-là, eh bien, le dimensionnement est posé comme une hypothèse au départ. Et donc la question de l'autosuffisance et la question de l'alimentation, ça vient évidemment s'intégrer. Et donc la première hypothèse qui est posée, c'est le fait que, eh bien, dans la mesure où avoir une population de 12 millions d'habitants sur un territoire aussi petit que celui de l'Île-de-France, eh ben c'est pas soutenable. Et aujourd'hui, ce n'est soutenable que parce que le territoire est sous perfusion de pétrole, de gaz, d'électricité qui viennent évidemment d'autres régions et d'autres régions du monde. Et donc la première hypothèse, c'est que déjà, eh bien, on a à peu près une division par deux de la population et que cette population va du coup pouvoir retrouver un niveau d'autosuffisance. Et donc évidemment, cette hypothèse est celle qui, d'entrée de jeu, a tendance à choquer le plus les lecteurs et lectrices de cet ouvrage. D'autant plus avant ce qu'on a vécu au moment du confinement, sauf que le confinement est passé par là et on s'est rendu compte qu'en quelques jours, il y a 20% de la population de Paris qui est partie.
Ça, c'est en 2020, parce qu'il s'est vraiment passé.
C'est en 2020, donc en quelques jours, 20% de la population de Paris qui décide de s'en aller, parce qu'on se dit, de toute façon, ça va être invivable de rester à Paris, donc je préfère repartir à la campagne.
Donc ce que vous dites, c'est que du coup, 2050, imaginez qu'il y ait une aussi forte réduction de la population, paraît moins surréaliste.
Bah, en tout cas, nous, ça nous paraissait pas forcément surréaliste, mais en tout cas, pour les lecteurs et lectrices, c'est vrai que, en tout cas, on touche du doigt à cette vulnérabilité que sont les mégapoles, cette extrême concentration, cette extrême densité, et donc le fait que si on veut effectivement retrouver un niveau, un équilibre, un niveau d'autosuffisance, et effectivement quelque chose de vivable, surtout avec le réchauffement climatique, et bien du coup, en effet, probablement, on va retrouver quelque chose de plus équilibré aussi, et bien dans la manière dont le territoire s'organise et s'équilibre. Et donc c'est valable pour l'urbain, mais aussi sur le rural, qui aujourd'hui est plutôt déserté, plutôt purement dortoir, avec des gens qui font des allers-retours vers la ville-centre. Et donc voilà, le rural va aussi être profondément transformé.
Alors, donc on va revenir après à ces questions, mais donc peut-être première amorce de réponse dans ce que vous dites à la question que je vous posais. Pourquoi est-ce que les terres reviennent en ville? Parce qu'en fait, finalement, dans votre scénario, la différence, la frontière entre urbain et rural s'estompe. Et finalement, on va plutôt vers une sorte d'entremêlement, peut-être qu'on va décrire un petit peu plus précisément après, mais ça, c'est une première piste quoi, de réponse, parce que je voudrais passer la parole à Claire Arnoux. Alors, Claire Arnoux, vous êtes la présidente d'une association, qui est l'Association de la défense des jardins des Vettes, qui sont donc des jardins, mais pas uniquement, qui se trouvent à Besançon. Est-ce que vous pourriez commencer par nous décrire ce que sont ces jardins?
Donc, en fait, notre association, elle s'appelle Jardins des Vettes, au pluriel, parce qu'en fait, les Vettes, c'est un espace de 34 hectares, en tout, dont 23 hectares menacés dans une première phase d'urbanisation par un projet d'urbanisme massif qui s'appelle, ironie du sort, éco-quartier. Et actuellement, c'est des jardins et on appelle ça des jardins populaires. Parce qu'en fait, le terme jardin ouvrier renvoie aujourd'hui à une réalité qui sont les jardins familiaux et ruraux, qui sont des jardins gérés par des associations dans des cadres assez précis et noté dans le PLU en tant que tel. Tandis que cet espace-là, les Vettes, c'est en fait un espace où on a des exploitations, une exploitation maraîchère, des exploitations horticoles, mais aussi on a beaucoup de jardins populaires et qui sont sous une forme d'autogestion spontanée. En fait, c'est-à-dire que comme c'était un espace un petit peu de marge qui a été longtemps bloqué dans l'attente d'un urbanisme d'ensemble, c'est un espace qui a été, on va dire, utilisé d'abord par des ouvriers, aujourd'hui on voit une vraie mixité, une mixité sociale et intergénérationnelle, c'est les termes, mais c'est quelque chose qui existe vraiment, c'est-à-dire qu'on voit les phases successives d'immigration qui sont arrivées sur ces jardins. Et par exemple, des jardins familiaux et ruraux, il y a une petite parcelle, il y a une arrivée d'eau, il y a un cabanon. Là, c'est vraiment le système D, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus populaire aussi dans le recrutement parce qu'il n'y a pas de liste d'attente, parce qu'il faut faire soi-même sa récupération d'eau, parce qu'il faut construire soi-même son cabanon. Pour avoir un jardin, pour faire simple, il faut être un petit peu débrouillard. Et puis, la gestion des jardins se fait parce qu'il y a des jardins qui sont un peu abandonnés, qui se retrouvent en friche. Il faut s'entendre avec les voisins, donc ça se fait dans la concertation avec les voisins pour est-ce qu'on peut s'installer là, oui ou non, est-ce que ça gêne. Dans cet espace aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans un espace qui n'est pas sur une répartition classique entre un espace protégé et un espace anthropisé. C'est-à-dire que, par exemple, on a des mares, et nous, on veut défendre ces mares parce qu'elles abritent de la biodiversité, elles abritent des espèces protégées, mais ces mares ont été creusées par les jardiniers eux-mêmes pour arroser leur jardin. Donc on est dans un espace, en fait, qui a une occupation spontanée qui est hyper intéressante, que ce soit d'un point de vue des personnes qui les occupent ou de l'usage qui en est fait.
Et alors, c'est pour bien comprendre, donc je disais au départ que ça se trouve à Besançon, donc c'est un quartier, dans un quartier de la ville de Besançon, on a cet espace qui est quand même très important, parce qu'au total, 34 hectares, c'est quand même gigantesque. Les jardins ne couvrent pas tout cet espace.
Alors en fait, ce qui est intéressant, c'est que comme notre association s'appelle Jardin des Vettes, on a tendance à imaginer des petites parcelles et un espace petit. Et en fait, l'espace totalement menacée, c'est effectivement 34 hectares, avec dans un premier temps la première phase d'urbanisation qui porte sur les 23 hectares. Alors effectivement, il y a une bataille de chiffres avec la mairie qui nous dit que non, ça ne sera pas tout à fait tout ça qui va être détruit.
D'accord.
Mais oui, donc il y a les espaces qui sont en jardin, il y a des espaces qui sont en friche, il y a des espaces qui sont boisés, il y a des espaces qui sont des espaces de zones humides. Il y a des espaces indéterminés, c'est-à-dire qu'il y a des espaces qui sont des friches qui ensuite redeviennent des jardins, qui ensuite peuvent redevenir des friches. Il y a des espaces qui se retrouvent boisés. Donc c'est un espace qui en fait fonctionne. Les images qu'on voit normalement, c'est celles qui ont été tournées par Anaïs Florin, et elle dit un truc intéressant dans son reportage. Elle dit que c'est intéressant de voir comment fonctionne un espace en autogestion et pas dans une autogestion qui aurait été amenée par un militantisme. Ce qui existe aussi, c'est une autogestion qui en fait est issue du fonctionnement même du lieu.
Et ce lieu, donc cet endroit, les jardins des Vettes, vous savez situer historiquement le début de son usage par les habitants ?
Alors en fait, c'est très compliqué parce que ça faisait partie de la ceinture maraîchère qui existait autour de toutes les villes il n'y a encore pas si longtemps. Et on a la dernière maraîchère du coin, qui est une maraîchère bio, qui d'ailleurs va voir une partie de ses serres et de terres détruites. Donc là, nous, notre association, je précise tout de suite qu'on a déjà gagné une fois au tribunal administratif, une deuxième fois au Conseil d'État et qu'on a pu bloquer les travaux. Et du coup, comme c'est populaire, c'est pas franchement écrit sur l'usage de jardin, donc sur l'usage de maraîcher, oui, mais sur l'usage des jardins, ça s'est toujours fait sans papier, sans droit à. Et l'ensemble des cabanons sont construits parce qu'ils sont construits. La récupération d'eau se fait dans des bidons, ce qui d'ailleurs a amené le représentant de la mairie à une réunion de jardiniers nous expliquer que c'était un bidonville. Puisque forcément, c'est des cabanons faits dans des constructions de récupération avec des bidons qui récupèrent l'eau de pluie.
Il n'y a pas eu de demande de permis de construire.
Non, je ne pense pas qu'il y ait de demande de permis de construire. Et c'est vrai que depuis le départ, c'est un usage qui est très, très populaire et qui continue aujourd'hui à être très populaire. Avec vraiment, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir les façons différentes de jardiniers selon les personnes et notamment selon les cultures. Donc on a les parcelles de... des Portugais avec tous les choux portugais, on a les rangées de coriandre et de menthe quand on est sur des jardiniers marocains. Là, la dernière, on va dire, les derniers arrivés, un petit peu, c'est l'immigration turque. Donc on voit qu'on commence à arriver et qui prend aussi des parcelles. Et c'est vrai que le fait qu'il n'y ait pas de liste d'attente, que ce soit d'un certain côté, pas structuré en association, ça permet un recrutement qui est vraiment très populaire. Mais pas que, puisqu'il y a aussi des personnes qui pratiquent de la permaculture... qui font des expériences, voilà.
Et c'est une parfaite introduction à la question suivante que j'aimerais vous poser, Benoît Thévard. Donc dans votre scénario, alors qu'il y a un scénario au sens très imaginatif du terme, tous les trois auteurs, vous imaginez que ce qu'on appelle aujourd'hui le Grand Paris, donc on voit l'entité administrative Grand Paris, est devenue une biorégion. Et que le principe, si j'ai bien compris, de l'organisation de ce territoire est complètement modifié, et notamment le territoire est organisé en fonction, on pourrait dire, de la nature des écosystèmes, c'est-à-dire en fonction de des forêts, des rivières, du relief, des plaines. Est-ce que vous pourriez nous décrire en fait ce que vous imaginez comme possible réorganisation de ce territoire selon ces principes ?
Alors, en effet, c'est le... On va dire dans la définition un peu de la biorégion, l'idée c'est vraiment d'imaginer un territoire qui ne serait plus délimité par des éléments administratifs, mais qui serait délimité par des éléments géographiques, biophysiques, qui seraient de l'ordre de l'hydrologie, de la géologie, les forêts, les rivières, est-ce que c'est des plateaux, des plaines, des collines, des montagnes, etc. L'idée, ça va être donc sur l'Île-de-France, qu'elle soit redécoupée en 8 biorégions, donc en fait, ça ne sera pas une biorégion Île-de-France, mais oui. Ça serait plutôt 8 biorégions de l'Île-de-France, avec plutôt des zones de plaines, de forêts, etc., avec du coup la ville de Paris qui serait du coup répartie sur 3 biorégions. Et donc, l'idée vraiment, on est reparti dans l'histoire sur un découpage qui était existant à une certaine époque et donc on a imaginé revenir justement sur ces frontières plutôt géographiques plus qu'administratives. L'idée étant en effet d'avoir une harmonie encore une fois dans la manière dont l'homme intègre son écosystème et donc dont on va pouvoir justement avoir une gouvernance aussi sur le territoire en fonction de ce qu'il est, des ressources, à la fois des ressources naturelles, de la météo, de l'hydrologie, etc. Et donc du coup de permettre d'avoir derrière une complémentarité aussi, parce qu'évidemment chaque territoire va pour certains avoir un peu plus d'eau, d'autres vont pouvoir faire tel type de culture, d'autres plutôt forestiers, donc apporter d'autres éléments. Donc on va avoir une complémentarité et du coup des échanges aussi permanents entre les biorégions.
Il y a une dimension très empirique dans ce que vous décrivez, c'est-à-dire partir de comment l'écosystème existe. Vous parlez à un moment dans le livre de culture du lieu. C'est ça, hein, c'est l'idée, c'est une relocalisation, mais dans un sens très concret et puis très très local. On a envie de dire.
Exactement. En fait,
un rivage de rivière, un espace boisé, un relief, et ça y est, presque le lieu change.
Ouais, tout à fait. C'est exactement ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, depuis ce qu'on appelle l'ère pétrolière, on a vécu. Alors historiquement, les villes ont été constituées et dimensionnées en fonction de leur capacité à avoir des stocks et avoir de quoi alimenter toute la population. En termes de dimensionnement, depuis l'ère pétrolière, on a un découplage complet entre la population d'un territoire et la capacité portante de ce territoire. Donc dans un scénario comme celui-là, où on imagine qu'on n'a plus le pétrole et que c'était plus un certain nombre d'énergie notamment, eh bien du coup on revient en effet à cette intégration où on réapprend à vivre ou à cultiver le lieu. Donc on a évidemment un vrai défi, par exemple, de connaissance et de formation, puisque aujourd'hui la plupart des métiers sont dans le tertiaire. Bon, alors du coup, comment on réapprend la terre, comment on réapprend la météo, comment on réapprend les rivières, la biodiversité, et comment on apprend à revivre au sein de cet écosystème en sortant des rapports de domination et plutôt dans un rapport de cohésion et d'échange. Donc c'est ça un petit peu le défi, c'est de dire puisqu'on n'a plus les ressources qui étaient des ressources de stock qui étaient dans le sol et qu'on extrait depuis à peu près un siècle pour subvenir à nos besoins, eh bien faut qu'on arrive à vivre avec ce qui est renouvelable, et donc si on puise trop dedans, ça tient pas.
Mais alors,
donc, qu'on arrive à gérer cet équilibre.
Et alors, est-ce que dans cette nouvelle culture du lieu, on peut encore se déplacer ? Ou pas ?
Oui, alors on pourrait avoir tendance à dire c'est globalement moins vite, moins loin, moins souvent. Mais en fait, il y a une grande mobilité. Simplement, on considère que la mobilité n'est plus du même ordre. On va avoir plutôt une mobilité qui va être dans la proximité. Alors on considère globalement, puisque dans la commande qui avait été passée par le Forum Vie Mobile, qui nous avait commandé ces travaux au départ.
Qui est un think tank lié à la SNCF.
C'est ça, qui veut réfléchir sur les sujets de mobilité. La question, c'était, est-ce qu'on peut imaginer une Île-de-France sans voiture ? Bon, alors déjà, comme ça, poser comme ça, c'est quand même pas évident, parce qu'on a, effectivement 9 millions de véhicules de voitures en Île-de-France. Bon, alors imaginez sans voiture, ça, c'est un petit défi. Et donc là, on imagine, en effet, qu'on divise par 55 la quantité de véhicules. Donc on est à quelque chose de l'ordre de 90 000 voitures qui sont partagées, qui sont de basse technologie, qui fonctionnent surtout avec du biogaz qui est produit dans les fermes et un petit peu d'électricité. Bon, alors on a toujours du coup de la mobilité, on a surtout une restauration de toutes les lignes ferroviaires qui en fait étaient, parce qu'aujourd'hui on a plutôt un circuit en étoile, ça part de Paris et ça va dans toutes les régions de France, parce qu'il faut faire Paris-Marseille en 3 heures, idéalement. Là, l'idée, c'est plus de faire Paris-Marseille en 3 heures, c'est de dire comment on s'assure que toutes les biorégions soient connectées les unes aux autres et qu'on puisse transférer de l'alimentation et des personnes d'un point à un autre, sans avoir besoin d'une voiture, et donc aussi pour répondre à ce besoin de complémentarité. Donc on a une grosse possibilité de mobilité, mais qui se fait plus de la même manière, qui se fait plus à la même vitesse non plus, parce que, alors ça c'est aussi une des hypothèses, on considère que l'énergie est variable, puisqu'on est dans un monde 100% renouvelable et qu'on n'a pas de haute technologie qui nous permet d'assurer une stabilité de réseau permanente.
De stocker.
Ça veut dire qu'on peut éventuellement avoir des trains à vitesse variable en fonction de la quantité d'énergie disponible, que donc on va devoir culturellement aussi peut-être s'habituer à ne pas arriver à l'heure prévue ou avoir ce genre de choses. Donc d'un point de vue culturel, c'est une grosse transformation. Puis pour se représenter, on peut imaginer par exemple la vie du meunier qui fait sa farine quand il y a du vent, et puis quand il n'y a pas de vent, eh ben, il nettoie son moulin, etc. Et donc là, on va essayer de se rapprocher d'un point de vue culturel plutôt de ce genre de choses.
Alors, Claire Arnoux, qui défendait donc les jardins d'Evette à Besançon, en tout cas, c'est pour ça qu'on vous a invité. Quand vous entendez la description de ce futur possible pour la région Île-de-France, ça vous fait envie ou comment vous réagissez?
On en a un peu parlé avant. Moi, il y a pas mal de. J'ai des points de désaccord et je pense que c'est un petit peu. Normal sur un travail de prospective comme ça qui se place en 2050 avec un scénario complètement différent. Par contre, ce genre de travaux, c'est essentiel. Et c'est essentiel notamment pour le type de lutte qu'on mène nous, mais que plein d'autres groupes écologistes mènent partout dans plein d'autres villes. Parce que, en fait, effectivement, c'est un scénario qui fonctionne sur une idée vraiment de rupture. En tout cas, toute chose n'étant pas égale par ailleurs. Et c'est vrai que c'est ce qui permet cette façon d'envisager d'autres possibles. Là, c'est sur une forme un peu scientifique. Je sais pas non, comment c'est de la prospective.
Un peu ingénieur, il y a un petit peu d'ingénieur.
Mais il y a quand même une part d'imaginaire, il y a quand même une part. Et dans tous les cas, c'est intéressant parce que moi, je vais reparler du coup des vêtements. En fait, ce qui se passe, c'est que là, on est menacé par un projet d'écoquartier et qu'on se retrouve à devoir argumenter sur la nécessité de préserver ces terres dans une ville comme Besançon. Je pense que sortie de Besançon, pour la plupart des gens, ils se doutent bien que Besançon, c'est pas Londres, c'est pas Paris. Donc on n'est pas avec une explosion de la population qui justifierait la nécessité urgente de construire. Et on voit bien par ailleurs que même dans des grandes mégapoles, cette nécessité à long terme, elle pose question. Mais même à Besançon, en fait, on est toujours dans cette logique de devoir construire. Et nous, en tant qu'association écologistes, on se retrouve aussi à devoir contrer des arguments. Et c'est le cas aussi de beaucoup de luttes écologistes urbaines, c'est-à-dire de luttes qui défendent des espaces naturels en ville, contre le concept de densification urbaine, qui est un concept qui souvent nous pose problème, parce qu'en fait, c'est un concept qui maintenant commence à être ancien, et qui fonctionne, toutes choses étant égales par ailleurs, et qui fonctionne sans prendre en compte la radicalité du changement qui nous attend. Par exemple, les Vettes, juste un exemple parmi d'autres, c'est un espace qui reste relativement frais, en été, en centre. Et moi, j'interroge fortement la notion de densification urbaine avec les étés caniculaires qui arrivent et la question de la vivabilité de la ville dense en général. Par ailleurs, même quel que soit le scénario qu'on projette dans 30 ans, enfin, vu la période d'incertitude qu'on a, je n'arrive pas à comprendre, et dans l'association, et même dans les associations environnementales qui sont avec nous dans cette lutte. D'ailleurs, j'en profite pour dire que FNE 2590, donc France Nature Environnement, est avec nous au tribunal administratif et au Conseil d'État, donc c'est une victoire qui est conjointe avec eux. En fait, là, on est vraiment dans une période d'incertitude totale, et dans cette période, détruire des terres arables de très grande qualité, détruire des jardins, détruire des zones humides, détruire des espaces boisés, enfin, c'est quelque chose qui nous paraît complètement ahurissant. Et qu'on valide le fait qu'on se dirige vers un effondrement, ou qu'on soit juste, ou qu'on soit un écologiste considérant qu'il faille faire la transition écologique, dans tous les cas, on voit bien que ces espaces-là en ville, à l'heure actuelle, doivent être absolument préservés, parce que quel que soit le modèle.
Alors, qu'est-ce qui s'y joue, voilà, au-delà de la défense des parcelles de maraîchage que les jardinières et jardiniers veulent défendre, ce qui est tout à fait légitime, mais en dehors de ça, pourquoi est-ce que c'est un lieu si important?
En fait, alors, sur les Vettes, déjà, il y a le fait que c'est un lieu de production alimentaire. Alors, c'est un lieu de production alimentaire pour des jardiniers. Donc, des fois, c'est censé moins compter que de l'agriculture purement urbaine. Mais ça reste de la production alimentaire. Ça reste des terres arables de grande qualité. Enfin, faut pas oublier que la plupart des grandes terres arables de très bonne qualité, elles sont généralement pas si loin des centres urbains. Parce que, de fait, les centres urbains se sont souvent installés juste à côté, voire très très proche des endroits où les terres étaient les meilleures. Les Vettes, c'est des terres d'une excellente qualité maraîchère. C'est quelque chose qui rentre actuellement pas du tout en compte en urbanisme, déjà rien que pour ça. Et ensuite, les Vettes, c'est un lieu qui, d'un point de vue social, qui d'un point de vue du rapport qu'on peut avoir en tant qu'être humain à un environnement, peut servir de laboratoire d'expérimentation. C'est-à-dire que l'existant qu'il y a sur ce lieu-là est complètement ignoré par les administrations, parce qu'ils n'en ont juste pas connaissance. Or, c'est quand même particulièrement intéressant de se dire qu'il n'y a pas d'un côté la nature à protéger et duquel il faut éliminer absolument l'être humain parce qu'il serait par nature toxique, mais de voir qu'il y a quand même des endroits où en fait les espèces protégées sont venues parce que les mares sont creusées par les jardiniers. Après, tout ça n'est pas parfait. Je veux dire, les jardiniers en question, jusqu'à l'interdiction des pesticides de synthèse, certains en utilisaient. Donc on voit qu'il y a quand même besoin aussi de régulation. Puis alors, autre chose qui est hyper intéressant, mais c'est des petits points de détail, c'est le fait que c'est que du jardinage avec la ressource en eau telle qu'elle existe. Il n'y a pas d'apport d'eau courante extérieure. Et dernier point, comme en fait c'est beaucoup de personnes issues d'immigration, en fait, là, ces dernières années, avec le réchauffement climatique, ils ont tous remonté leurs arbres et leurs semences. Et là, je me dis que c'est ce qui joue à cet endroit-là, c'est-à-dire de voir des oliviers qui commencent à être plantés, les pêchers du Portugal qui remontent et qui s'installent. Il y a quelque chose qui est en train de se passer dans une adaptation naturelle au milieu qui en fait est hyper intéressante, mais qui ne rentre pas dans le plan d'urbanisme et dans le plan d'éco-quartier.
Et alors, ce qui est quand même très paradoxal dans la situation d'Evette et de Besançon que vous décrivez, c'est que la ville de Besançon a une maire écologiste. Donc, Besançon fait partie des villes de la vague verte, de la vague ELV des dernières élections municipales, et que donc cette municipalité ELV défend l'éco-quartier que vous combattez. J'en profite pour dire que vous-même, Claire, vous étiez candidate France Insoumise lors des dernières municipales. Donc voilà, il y a eu une confrontation dans la campagne municipale, notamment sur le sujet du jardin d'Evette. Est-ce qu'il n'y a pas là, enfin en dehors voilà, du conflit d'usage sur le territoire que vous décrivez, qu'on a bien compris, est-ce qu'il n'y a pas aussi l'opposition finalement de deux visions de ce que signifie l'écologie en ville ?
En fait, je pense que le mot écologie, en fait, il recouvre plein de réalités différentes. Et puis, il ne suffit pas à caractériser une position qui serait communément partagée par tous. Donc oui, bien sûr qu'il y a des visions différentes de l'écologie, ne serait-ce que le thème de l'effondrement qui n'est pas partagé par l'ensemble des militants écologistes, même si, de mon point de vue... par exemple, personnellement, la question de l'effondrement... elle m'importe pas tant, puisque je me dis, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait là maintenant tout de suite, que ça soit pour préparer l'avenir ou que ça soit pour préparer le après-avenir. Dans tous les cas, la ligne de conduite reste la même. Voilà. En tout cas, c'est une question. Mais par contre, oui, il y a des lignes différentes. Et là, de mon point de vue et du point de vue de l'association, l'écoquartier, c'est un urbanisme d'ensemble. Les problèmes de concertation sur ce type d'urbanisme d'ensemble, c'est-à-dire que c'est des trucs qui sont quand même... pour moi, c'est de l'urbanisme à la cime. C'est-à-dire que les gens, c'est l'équivalent d'un jeu vidéo. On dit, ah tiens, voilà, là, on va faire un éco-quartier, il y a un trou. D'ailleurs, l'Evette, c'est une dent creuse, soi-disant. Donc, parce que comme il n'y a pas encore de bâtiment,
c'est considéré comme vide.
C'est considéré comme
peuplé.
Vide. Non, il y a pas des choses qui ressortent. Ouais. Puis même cette idée même dans l'urbanisme en général, qui est des dents creuses, c'est-à-dire des trucs qu'il faudra absolument combler avec du plomb rapidement, parce que, enfin, je trouve que c'est des thèmes qui sont assez fous. Et là, vraiment, d'un point de vue écologiste, ce qui s'oppose, c'est effectivement la préservation de terre. Il y a la question de la nécessité de construire, pour faire simple. Il y a aussi la question de cette histoire de poursuivre, de toutes choses étant égales par ailleurs. C'est-à-dire, est-ce qu'on considère qu'on va continuer longtemps comme ça, ou est-ce qu'on considère que, effondrement ou pas, le réchauffement climatique va amener des changements tels que on ne peut plus bétonner des zones humides, on ne peut plus bétonner des espaces de jardin, que chaque, entre guillemets, brin d'herbe est à préserver. Parce que là, en fait, le problème, c'est pas qu'il y a un écoquartier à Besançon. Le problème, c'est qu'il y a un écoquartier à Besançon, plus ceci, plus ceci, plus ceci, et qu'en fait, ça n'arrête pas, quoi. Je veux dire, ça bétonne de partout, tout le temps, et la machine n'est pas du tout en train de s'arrêter.
Benoît Thévard, dans le cas de votre livre, pourquoi est-ce qu'il y a eu besoin d'adosser votre scénario collectif de biorégion à l'hypothèse de l'effondrement ?
Parce que l'Institut Momentum, donc qui a réalisé finalement ce travail, en fait, se pose la question de ce qu'on appelle les issues de l'anthropocène. Donc cette fameuse ère géologique dans laquelle en fait l'humain a marqué la biosphère de manière irrémédiable et irréversible. Et donc, du coup, on se pose la question de comment tout cela va se terminer. Ce qui ne veut absolument pas dire qu'on est tous d'accord sur la manière dont ça va se terminer. Voilà, certains pensent que ça va être plutôt très long, très lent, etc. D'autres disent que ça peut, en quelques semaines, il peut y avoir un effondrement systémique extrêmement profond. Et donc, on va dire que l'hypothèse de l'effondrement, c'était aussi cette hypothèse de la rupture, c'est-à-dire qu'on considère en effet que on arrive au sommet des exponentielles. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces courbes de la grande accélération où, en fait, on voit toutes les courbes socio-économiques, biophysiques de la planète avec les pollutions, avec les extractions de minerais, etc.
L'acidification des océans, exactement, le CO2 dans l'atmosphère.
Tout est en exponentielle. Et donc, à un moment, forcément, les exponentielles atteignent un maximum. Et donc, le sujet, c'est, il se passe quoi quand on atteint le maximum? Donc, le Club de Rome l'avait modélisé dans les années 70. Il a dit, il y a un moment où ça redescend. Et donc, en effet, on pose cette hypothèse-là, de la rupture. Alors après, la temporalité de 2050, c'est un peu anecdotique. Du coup, pour répondre par rapport à, on va dire, qu'il y ait effondrement ou pas, il faut faire, c'est à peu près les mêmes choses qu'il faut faire. C'est vrai que, par exemple, quand on discute des questions du nucléaire, on se rend compte que si, par exemple, le seul sujet, c'est celui de dire, il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre, un certain nombre de personnes vont dire, allons-y, faisons des centrales nucléaires, c'est une énergie décarbonée, etc. Si on considère qu'on va vers un effondrement de systémique, la gestion d'un parc nucléaire de manière sécurisée sur le long terme, etc., peut interroger. Et donc, les choix qui peuvent être faits, selon que l'on considère que dans les 5, 10, 15, 20 ans, on a potentiellement, en fait, un État qui se retrouve complètement désorganisé et plus du tout en mesure de répondre aux besoins des populations et à quelque chose de stable, de sécurisé, évidemment, les choix qui sont faits ne sont pas les mêmes. Et donc, c'est la raison pour laquelle, là, quand on pose ce choix de partir de l'effondrement, c'est d'abord parce que c'est une thématique de travail. Et entre nous, ça a été une discussion de savoir, à quel point la situation est grave, à quel point on est revenu à un état d'équilibre. Donc là-dedans, bien sûr. Alors, ce qu'il faut toujours dire, c'est qu'un scénario prospectif, c'est absolument pas une prévision. Voilà, c'est pas une prévision,
c'est un brainstorm, c'est une réflexion, c'est un scénario.
Des hypothèses que l'on pose qui sont forcément simplificatrices, dans lesquelles en effet on prend pas en compte tous les paramètres sociaux, tous les paramètres économiques, on n'évalue pas l'impact sur le PIB, etc. Donc on pose des hypothèses et on met ça sur la table et après on en discute. La raison pour laquelle on a mis l'effondrement, c'est celle-là, c'est qu'on pense qu'il y a de grandes probabilités pour que un certain nombre de choses que vit notre société aujourd'hui s'effondrent parce qu'on est aujourd'hui trop vulnérable et qu'on arrive justement à ce sommet des exponentielles et que, inévitablement, si c'est dans 5 ans, dans 10 ans, 15 ans, peu importe, mais en tous les cas, on risque de prendre quelques éléments à travers la figure, probablement.
Et on arrive vers le terme de cette émission. J'aimerais quand même, avant qu'on arrête, qu'on aborde la question, même qu'on l'esquisse, la question démocratique, en tout cas la question du mode de décision, du mode de gouvernement. Dans le scénario du Grand Paris après l'effondrement, vous évoquez le fait que relocalisation, c'est aussi potentiellement une relocalisation des échelles de décision. Comment on prend les décisions entre ces deux régions que vous imaginez?
Alors, on part du principe, en effet, que au niveau en gros, la mondialisation a vécu. La mondialisation basée sur toutes les énergies fossiles et autres, du coup, elle ne tient plus, et les grandes puissances, y compris les sociétés transnationales, ont fini par démontrer que, en fait, elles étaient, elles n'arrivaient pas à tenir dans ce monde d'après. Et donc, on revient à quelque chose. Yves Cochet l'évoque comme étant une France fédérale dans une Europe fédérale, etc., où en fait, on a plutôt des gestions à l'échelle des biorégions qui vont être avec des gouvernances transversales. Alors, il faut bien, en gros, ce qui domine la question, en tout cas, de la gouvernance dans un monde où on a moins, c'est la question, bien sûr, de l'égalité et de toutes les égalités.
Une redistribution.
Et donc la question du partage, la question de comment on s'assure, puisque l'ensemble a moins, comment on s'assure que tout le monde ait ce qu'il faut pour vivre. Et donc, vraiment, de sortir, encore une fois, je reprends le terme de domination, mais on peut parler de la domination patriarcale, mais on peut parler, bien sûr, de toutes les dominations, des riches sur les pauvres ou de certaines catégories sociales sur d'autres. Donc, dans la question de la gouvernance, bien sûr, va se poser la question de repenser la démocratie, de repenser l'implication des citoyens dans la manière dont on prend les décisions, et de s'assurer en tout cas que le peu de ressources qui sont disponibles à l'échelle des biorégions soient également partagé sur l'ensemble du territoire.
Et d'ailleurs, vous évoquez dans le livre la possibilité d'un revenu d'existence biorégional, qui est un exemple de ce que vous proposez.
Bien sûr.
Claire, Armé.
Oui. Alors moi, je vais juste répondre sur l'exemple du nucléaire rapidement.
Allez-y.
Parce que du coup, le nucléaire, c'est un très bon exemple justement où, quel que soit ce qu'on pense de l'effondrement, on peut avoir une unité d'action puisque les luttes anti-nucléaires, elles existent depuis très longtemps. Et le thème de l'effondrement devient prégnant à ce point dans l'écologie que quand même assez dernièrement. Et du coup, pour moi, quel que soit l'argument, ça n'empêche pas une unité d'action pour défendre des causes qui sont communes. C'est ça que je voulais dire. Après, sur la façon de voir Europe fédérale ou ces choses-là, nous, en tant qu'association, c'est clairement pas...
C'est pas notre sujet,
même si on a chacun individuellement nos avis sur la question.
Sur l'auto-organisation, l'auto-gouvernement...
Et sur la prise de décision, ouais. Alors du coup, c'est là où c'est intéressant, parce qu'effectivement, au VET, on a des exemples concrets de décisions qui sont prises sans qu'il y ait de... Et c'est ça qui est intéressant, sans même qu'il y ait forcément de formulation... officialisé de la manière dont les décisions sont prises. C'est-à-dire que quand des gens fonctionnent ensemble, les choses se font, des décisions sont prises, alors même que ce n'est pas forcément très formalisé, parce que justement, l'espace et la manière dont s'est organisé les jardins, ça ne le permet pas. Par contre, avant de voir comment on peut prendre des décisions dans l'avenir, tous ces projets d'urbanisme sont... en général, voire dans l'immense majorité des cas, absolument pas démocratiques. Enfin voilà, je veux dire, ce projet d'éco-quartier...
Eux diraient que c'est démocratique. Du côté de la mairie, ils diraient que c'est des élus, c'est l'intérêt général.
Je suis même pas sûre qu'ils seraient capables de dire que vraiment c'est une volonté populaire qui a décidé d'installer un éco-quartier sur l'Évêque. Je crois que personne ne peut assumer cette position-là. Donc non, c'est des prises de décision qui sont des prises de décision qui viennent du haut, qui s'abattent sur le bas. Et d'ailleurs, je veux rappeler que nous, notre association, elle défend... l'Évêque sur un terrain environnemental plus, mais pas que, depuis 2018, puisque c'est vraiment une association qui émane de jardiniers, mais qu'il y a une première opposition dès 2005, une opposition des habitants et des propriétaires de terrain dès 2005 contre cet écoquartier. Donc, en fait, c'est pas quelque chose... Et après, la question, c'est pas simplement que le dossier soit voté une fois qu'il a été décidé, c'est la question de comment on s'empare collectivement de la prise de décision dans l'idée même, dans le projet même. Il ne s'agit pas simplement d'amener un projet tout ficelé et de dire « alors maintenant, c'est oui, c'est non, c'est comment ?» Ce n'est pas que ça, la démocratie.
Ouais, c'est comment, qu'est-ce qu'on fait de cet espace ?
C'est qu'est-ce qu'on fait ? Quelle vision d'avenir ? Comment on voit le quartier ? Comment on se réempare de toutes ces questions-là ? Et ça, je crois qu'il n'y a personne qui pourrait dire que ce projet-là, comme d'autres projets d'urbanisme, correspondent à cette définition de la démocratie.
Bah écoutez, merci beaucoup, merci vraiment à tous les deux d'être venus pour cette discussion. Alors c'était une première esquisse de discussion, on va mettre toutes les références de vos ouvrages et de vos luttes et combats sur le site. Merci beaucoup et merci à celles et ceux qui nous ont regardés et je vous dis à bientôt sur Mediapart.